Pastis da pausa, kassis da palumbes a c'hoak.
Il est 11h11, espace GFEN, lecture de texte de Félix Marcel Castan. Michel Ducam règle sa montre.
Oui.
Et c'est parti.
Castan.
Attention.
Castan.
Homme d'action, inventeur du festival, créateur du festival de Montauban. Homme de culture, créateur de la Mostra del Larzac, qui eut 32 éditions avec la création d'écoles contemporaines qui existent aujourd'hui et qui furent créées par la réunion qu'il fit de plasticiens qu'il allait chercher l'hiver pour les exposer l'été en leur disant « Où sont vos points communs? Où sont vos différences ?»« Quelle école présentez-vous ? » Car un créateur tout seul n'est jamais que tout seul. Une école de créateurs annonce et s'oblige au manifeste. Félix Marcel Castan, on vous lira chaque jour à des horaires très précis mais qui changeront et que nous tenons rigoureusement secrets. Des textes de Félix Marcel Castan. Texte aujourd'hui introuvable mais soutenu par le bruit des camions qui passent sur la route car Castan était vraiment inscrit dans la civilisation. Manifeste de Perpignan.
Colloque d'octobre 1976.
En tant qu'écrivain militant, je me suis prononcé invariablement en faveur des positions jacobines et occitanistes considérées comme inséparables. Jacobine d'abord, affirmant par là que depuis la révolution de 1789, toute résistance ouverte ou larvée au fait national, quelles qu'en soient les variantes ou les motivations, avait un contenu irrémédiablement rétrograde, passéiste, démobilisateur. 1789, l'accès à la conscience populaire, au concept national. Le triomphe de la nation équivaut au triomphe de la révolution. Son échec aurait sanctionné l'échec de celle-ci. Après cet immense événement, rien n'est comme auparavant. Alors commence le processus de la modernité. Et le peuple occitan s'en accommodera comme tous les autres peuples qui ont mis en commun leur destin dans la dynamique nouvelle. Quant aux positions occitanistes, elles se définissent par opposition à toutes les conceptions réductrices, régionalisme, ancien ou néo, provincialisme, fédéralisme, nationalisme, disons encore, ethnicisme, qui en reproduit l'image dégradée, ou autonomisme qui voile cette image sous un masque d'abstraction.
La réduction de l'occitanisme au patriotisme du pays natal, voilà un bien al pays, ou comme disait un théoricien du siècle dernier au sentiment de la matrie, atteint les bornes extrêmes où ne subsiste qu'un résidu affectif, autres idéologies minimales, celles que recouvrent les notions de panlatinité ou de méditerranéisme, les peuples latins, l'homme méditerranéen, le génie méditerranéen. Les mécanismes réducteurs s'appuient toujours sur une parcelle de réalité qu'il faut exactement cerner, discerner, distinguer. L'idée latine est relativement opératoire dans le domaine linguistique, la référence méditerranéenne dans le champ ethnographique. Il est vrai aussi que l'occitanisme comporte un aspect qui l'attache au terroir, quelle que soit d'ailleurs la vocation de l'individu, sédentaire ou voyageur. Mais l'occitanisme transcende l'enracinement. Les racines changent de ce qu'on fait. L'autonomie communale, départementale, régionale, bref, de toute collectivité locale, est une vieille revendication démocratique, anti-bonapartiste, à laquelle on se réjouira que les militants occitans adhèrent. Le nationalisme occitan, si on le rapportait au seul principe d'unité culturelle des pays d'oc, se justifierait peut-être s'il ouvrait la voie à ce qu'on pourrait appeler un fédéralisme culturel, excluant toutes sortes de subordinations dans le domaine de la pensée. Quant à la notion de province traditionnelle, elle n'est pas dénuée de vertu dans le cadre propre à la recherche historique. Elle permet de déterminer les micro-formations juridico-politiques dont l'histoire est tissée, et qui ont retardé l'apparition du concept d'Occitanie jusqu'à la fin du siècle dernier. Aucune analyse n'est plus importante que celle-ci pour la compréhension de 9 siècles de préhistoire de l'Occitanie, tous étonnamment riches d'œuvres et de contradictions.
la spéculation sur l'ennemi ou les ennemis occitanes trouverait sa fécondité dans le repérage des ruptures dont la culture occitane est faite entre le donné empirique et la construction d'une culture savante. Pour juger enfin du régionalisme d'un point de vue occitan, on prendra un certain recul. On ne peut nier l'insertion de la culture occitane aux divers niveaux de la société contemporaine, niveau communal, niveau départemental, niveau régional, niveau national. Et il est juste qu'elle reçoive des aides à chacun de ces niveaux, sans exception. Prétendre cependant l'enclore dans des entités régionales, quel qu'en soit le nombre arbitrairement fixé, ne correspondrait ni à sa nature, l'écrivain occitan n'est pas un écrivain régionaliste, ni à une juste conception de la région. Nous poserons en principe la dichotomie fondamentale. D'une part, l'effet de culture se rattache à un centre nominal spécifiquement occitan, et de l'autre, l'effet infrastructurel se rattache au fonctionnement du corps national, disons hexagonal. Si nous voulons tenir en bonne méthode les deux bouts de la chaîne, d'un côté le concept unitaire, mais non pas unitariste, de nation française, de l'autre le concept irréductible d'identité culturelle occitane et non pas de minorité régionale, nous serons à même de découvrir la loi de l'éveil et du développement d'une Occitanie tendant à la plénitude de son être. À mon sens, deux graves erreurs d'interprétation ont été commises par le mouvement occitan au cours de son histoire. Au siècle dernier, on a cru pouvoir assimiler la renaissance d'Oc au réveil des nationalités dont l'Europe donnait le spectacle. Et récemment, tentant d'exploiter à son profit une autre actualité, l'ébranlement moral causé par la guerre d'Algérie, par exemple, on a voulu l'identifier au mouvement de décolonisation du tiers-monde. On avança le concept intrinsèquement incohérent de colonialisme intérieur pour caractériser la situation occitane au sein de la nation française. Mais il n'y a pas d'extériorité de la conscience occitane. Et le peuple occitan se veut entièrement citoyen d'une nation qu'il a autant que quiconque forgé de ses mains, de sa pensée et de son génie profond. Le peuple occitan est entièrement citoyen de la nation française. Il n'est pas colonisé. Des groupes intellectuels n'ont nullement qualité pour se substituer à leur peuple et inventer en son nom une politique qu'ils récusent. Notre loi, c'est le sentiment populaire, lui seul, ou du moins lui d'abord. Le rôle des intellectuels n'est pas de le contester, mais de le traduire aussi fidèlement et aussi fortement que possible. Il n'en va pas de même au plan culturel. Les intellectuels sont porteurs d'un savoir qu'ils ont le devoir de dispenser et de défendre auprès de leur peuple, de lui restituer en juste propriété. Ils ont le droit d'exiger de la nation les moyens de cet acte majeur de recouvrance. Droit imprescriptible de rejeter tous les mécanismes de refoulement qui tendent à déposséder un peuple de son âme, à le maintenir en état d'ignorance. Une littérature au plein sens a surgi dans la période contemporaine, bien avant 68 d'ailleurs, issue non pas de revendications autonomistes inexistantes, mais du dysfonctionnement des structures nationales. Le centralisme français, aveugle et mécanique, constitue une tare de notre vie nationale et une corruption du concept national.
Ce n'est pas par le centre que la décentralisation se fait. Qui en a pris avant tout une conscience aiguë et conséquente, sinon les écrivains qui ont choisi d'écrire dans une autre langue? Il n'y a pas d'autre explication possible d'un choix linguistique, d'une écriture que tout, d'autre part, condamnait à l'inanité. Le problème, la grandeur, le doute des écrivains occitans et leur signification critique se mesurent à cette échelle nationale. Ils admirent Paris pour ses lumières, mais ils veulent faire autrement. Ils veulent prendre contre-champ une littérature non point d'individus et de cerveaux solitaires entrechoquant leur solitude, mais une littérature qui intègre les pulsions du cosmos, de l'ignorance, les dimensions de l'histoire, le doute sur ce qu'on est et sur ce qu'on devient, les pensées de tous. Bref, une littérature qui n'est pas pour matériaux les idées indéfiniment sécables d'une capitale, mais la trame d'une civilisation. Deux conceptions de la nation culturelle s'affrontent, une conception centraliste et une conception pluraliste. En vérité, c'est moins simple. La nation française a pris en charge, au titre du patrimoine, un certain nombre de cultures halogènes, c'est-à-dire des cultures qui préexistaient à la construction nationale, dont la culture occitane. Sa mission n'est pas de les assimiler et les considérant comme composantes d'une culture unique, de les ravaler au statut de culture régionale. La culture occitane proteste de tout son passé et de tout son présent contre une telle assimilation ou une telle dégradation. Non à la régionalisation, non à l'ethnisme, non à la soumission du culturel à l'administratif. Le signe distinctif et la condition d'universalité résident dans la langue. La langue permet l'élaboration d'une identité culturelle dont elle reçoit en retour sa dynamique fondamentale, son originalité sans équivalent, son débat qui la constitue définitivement comme valeur. Le premier champ d'application de l'occitanisme est évidemment la pédagogie.
Un énorme héritage est là, entre nos mains. Une responsabilité écrasante pèse sur nos épaules. L'excès de richesse parfois désoriente. Il arrive qu'on jette le manche après la cognée et qu'on renonce à la littérature, aux écrivains, aux livres, à l'art, qu'on tienne en suspicion de grandes créations de l'esprit et qu'on s'enferme dans une vision populiste de l'expression occitane, dans une pratique élémentaire du langage, qu'on oppose en fait l'oralité spontanée à la bibliothèque. Pourtant, sans la bibliothèque, quel pourrait être l'avenir des parlers locaux qui, malgré tout le respect qu'on leur doit, ne justifieraient pas une défense de grand style, une entreprise de sauvetage ? L'enjeu véritable n'est pas inscrit d'avance dans la parole quotidienne tant que notre action pédagogique n'en a pas modifié le sens. La langue des troubadours et des papes occitans, la langue des grands baroques, dont la citoyenneté française n'oblitérait pas une langue d'une autre citoyenneté, liée à leur cité et à ses traditions d'indépendance. La langue de la seule poésie authentique dans la France du XVIIIe siècle, la langue renaissante de ceux qui déclarèrent au XIXe la guerre à l'empire parisien de la culture, au cimetière provincial. La langue, enfin, de nos contemporains, qui écrivent pour tous les Occitans vivants, chers de notre chair, cette langue née de la grande aspiration du XIIe siècle à une forme de culture laïque qui n'a cessé de dire la situation d'un peuple, lequel n'est jamais connu comme peuple ailleurs qu'en elle, la langue qui fonde la notion même d'Occitanie, serait-elle traitée dans nos écoles comme un patois ? Enseigner une prétendue langue sans la culture immense qu'elle porte n'est que leurre. Ce n'est pas ainsi qu'on fait des militants. Un organisme a été créé en 1945 dans l'élan de la libération, l'Institut d'études occitanes, reconnu d'utilité publique, pour fournir les matériaux scientifiques dont l'enseignement ne dispose pas encore autant qu'il serait nécessaire. Mais il végète pour avoir laissé s'obscurcir ses buts et aussi parce qu'il n'obtient pas les subventions dont il a besoin de la part des pouvoirs nationaux et locaux. Mais aussi, la question qui se pose, si cet institut d'études occitanes ne remplit pas son rôle d'illustration et de pédagogie, qui le remplira ? Où s'élaborera l'histoire de la littérature, de la langue, de la culture occitane, dans une vue réellement synthétique et orientée vers l'éducation de la jeunesse ? Cette histoire qui implique d'importantes rectifications de l'histoire de France et des mises en perspective nouvelles de la culture européenne. On comprend qu'il n'y va pas seulement de la manie de quelques-uns occitanistes, mais c'est une question d'État. Enseigner la langue et la culture d'oc, enseigner l'Occitanie, ne devrait avoir dans l'école française statut facultatif qu'à titre provisoire ou transitoire. On accorde comme une tolérance livrer au bénévolat et à l'incompétence ce qui devrait s'imposer comme une obligation pour la dignité des personnes, pour la dignité de la nation, contre la dégradation des valeurs humaines et contre la stérile uniformité. En outre, par sa présence au monde, de par le point de vue qu'elle instaure au cœur de la communauté, refusant la désincarnation, la pensée occitaniste ne saurait se désintéresser des conditions dans lesquelles s'éduque une personnalité enfantine et adolescente au contact de son environnement. L'expression « pédagogie occitaniste » ne paraîtra pas abusive si on l'entend au sens de pédagogie de recherche et d'essence écologique. Et je ne sais ce qu'on doit penser de la jeune science écologique prise en soi, mais je ne doute pas que dans le cadre d'une pédagogie du milieu, dans le cadre d'une pédagogie dans laquelle la langue est le milieu, et dans la perspective de fournie par l'histoire, elle trouve un terrain où exercer un authentique pouvoir à la fois structurant et libérateur. Les relations entre l'enseignant et l'enseigné à travers le milieu conçu comme totalité changent nécessairement de caractère. L'initiative de l'élève est la condition du travail sur les itinéraires choisis pour des prises de conscience approfondies. L'initiative de l'élève. Par cette voie, l'occitanisme tend à un magistère de promotion humaine. Du haut en bas de la hiérarchie enseignante, il y a des propositions à faire pour rendre enfin opératoire la notion de milieu, de travaux collectifs, pour incarner l'école, le lycée, l'université dans leur contexte social, économique, matériel et surtout culturel. Apprendre à lire les contradictions, forger des consciences de citoyens, ce militantisme pédagogique intimement lié au contenu de la littérature doc contemporaine interviendrait comme catalyseur dans les foyers d'animation culturelle s'il était davantage pris en considération, s'il bénéficiait au moins de soutiens moraux, s'il était largement admis pour sa dynamique et sa modernité.
Ce n'est pas la langue qui fait les œuvres, mais ce sont les œuvres qui font la langue. Le deuxième champ d'application de l'occitanisme, l'action culturelle. La grande difficulté de l'action culturelle aujourd'hui en France ne peut laisser l'occitanisme indifférent. Le terme et la chose elle-même sont de création récente. On n'avait pas vraiment songé dans les siècles précédents à rationaliser ni à systématiser les procédés grâce auxquels l'œuvre, une fois qu'elle est créée, accède à sa destinée et fonctionne comme un moteur dans l'univers qui la reçoit. Comment elle provoque d'autres créations en chaîne et s'installe dans un espace qui rayonne autour d'elle, fixant à la fois et dépassant l'histoire. Depuis la dernière guerre, peu à peu, des initiatives privées, des initiatives officielles ont tenté de se rejoindre, de se coordonner, de s'appeler, de se coordonner pour faire participer la plus grande masse de population possible à la vie intellectuelle. Les succès ont été divers. Il paraît urgent de dépasser cette première phase. Un choix s'impose. Faut-il se donner pour base l'énorme foyer parisien, considérer l'activité centrale parisienne comme un tronc commun dont dériverait le marquetage, le bouturage en Provence? Ou faut-il suivre une autre voie plus réaliste, plus pluraliste, plus démocratique, partir des activités qui se sont déjà développées spontanément dans des lieux divers, les stimuler, les sélectionner, les faire fructifier, les fédérer peut-être, du moins les généraliser, les mettre en débat. Donner à leur expérience un effort théorique. Tous les plans connus ont été bâtis au centre, par le centre et sans égard aux lieux concernés. C'est justement ce qui doit changer. Et c'est l'occitanisme qui conteste le principe de toute planification dans ce domaine. Pour quelle raison ? En tant que force avancée d'un engagement qui est un acte de rébellion, l'occitanisme manifeste par sa seule existence que l'esprit se joue des contraintes administratives. S'il était d'essence politique, l'occitanisme manquerait de cette violence qui naît de sa fonction culturelle. Dans le tourbillon politique du moment, ces forces justifiant que peu d'espoir, il serait à brève échéance condamné à l'échec le plus total. Il l'exprimera contre la ségrégation culturelle. Or là, où on débat de décentralisation, où on pose des problèmes d'une brûlante actualité, les occitanistes ne sont pas en général des invités. On fait droit à leurs problèmes propres, en des débats séparés, comme si les problèmes n'étaient pas imbriqués et comme si les solutions occitanistes manquaient de généralité. L'occitanisme sera dans la pâte un ferment, ou bien un pur néant, dirait Guillaume d'Aquitaine. Génie de la diversité, l'occitanisme. Génie de la pluralité, génie de la mise en débat des cultures. La culture commence là où la loi est transgressée, où l'attente est déçue, où la nouveauté surgit sans préalable et prend possession du terrain de haute lutte. Affaire d'État encore, car il est intolérable que la France accepte une situation qu'aucun pays n'accepterait. Ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Espagne, ni l'Angleterre ne concentrent ni n'emprisonnent la pensée dans une seule capitale. Si l'on veut en finir avec cet état de choses, il faut premièrement reconnaître les cultures halogènes de France. Par la voie pédagogique, l'occitanisme atteint aux racines de l'être social. Par la voie de l'action culturelle, il vise à donner forme à un pays sans forme, programme non moins important.
Et aucune structure régionale ne suffit en matière culturelle. La culture ne s'enferme pas dans des frontières comme dans des boîtes. Le support normal d'une vie culturelle, c'est une ville avec ses équipements et sa force de rayonnement, lieu de rencontre d'échange. Comment le privilège parisien céderait-il tant qu'aucune ville française ne se redresse ? La tradition occitane, héritage commun de toutes les villes du Midi, établit entre elles un lien de parenté et de culture. Leur solidarité mieux ressentie permettrait rapidement une sorte de bipolarisation de la vie intellectuelle en France. La chaîne des capitales occitanes pèserait pour modifier les équilibres. La promotion des capitales sur la base de leur destin historique original, voilà ce à quoi l'occitanisme peut contribuer de manière déterminante s'il devient part intégrante d'une politique de renaissance culturelle de la nation. Dans le cas contraire, il n'y aura pas de promotion de capital. Voilà, on a lu ce matin, on continuera dans la journée à des heures imprévisibles. On continuera aussi demain à lire Félix Marcel Castan, essayiste, qui permet de construire une idée cohérente d'une nation culturellement émancipatrice. Drôle d'enjeu. Et en réfléchissant depuis l'Occitanie, vous avez tous fait des rapports et des rapprochements avec les Basques, la Corse, la Bretagne, les Parisiens et tous les apatrides de France, plus les Kabyles, plus ceux qui parlent arabe, plus ceux qui parlent polonais, plus ceux qui parlent roumain, plus ceux qui se sentent citoyens du monde avant d'être enracinés quelque part, plus. C'est le plus du dialogue que l'on recherche avec la pensée de Castan. À très bientôt. Je vous signale que le festival n'est toujours pas ouvert, l'Estéiade n'est pas ouverte. Donc c'est en contrebande que passe la passée de Castan, faisant du grand vent sans pluie.